Nous allons vous lire des extraits du roman « L'incroyable histoire du coq qui ne voulait pas fermer son bec », écrit par Thomas Gerbeau et illustré par Pauline Kerleroux. L'héroïne de cette histoire s'appelle Jeanne. Elle a 12 ans et rêve de devenir journaliste. C'est pour cela que son père, vétérinaire, lui a trouvé un stage à West Matin. « Tu dois être la petite Jeanne ?» J'ai répondu oui en me disant que si elles attendaient une autre Jeanne, elle serait sans doute moins petite que moi. La fille de l'accueil s'est ensuite tournée vers l'autre dame, assise à côté d'elle. « C'est la petite Jeanne. » Elle lui a dit cela comme si elle n'avait pas entendu le début de notre conversation. Puis elle m'a tendu un badge en carton avec une petite pince que j'ai accrochée à la bretelle de mon sac à dos. « Alors, comme ça, tu es la fille du vétérinaire ?»« Oui, comme ça. » À nouveau, elle s'est adressée à sa collègue. « C'est la fille du vétérinaire. Tu sais, le monsieur de la rubrique pas si bête. » Tout doucement, la dame a avancé la tête. C'est ton papa, le monsieur de la rubrique pas si bête. J'ai hoché la tête et je me suis mordu les lèvres. Un truc que je fais quand j'ai envie de rire, mais que ce n'est pas le moment. Finalement, la première dame a pris son téléphone et l'a coincé entre sa joue et son épaule. Bonjour, ici l'accueil. La petite pas si bête est arrivée. Je vous l'envoie.
À West Matin, Jeanne fait la connaissance de Margot Duras, journaliste aux faits divers. Elle s'intéresse actuellement à une drôle d'affaire. C'est le titre, imprimé en grand, qui a attiré mon attention. Le coq de l'île aux moutons, forcément coupable. J'ai posé mon chocolat et j'ai commencé à lire ce qui suivait. L'article parlait d'un coq nommé Maurice, à qui l'on avait interdit de chanter parce qu'il dérangeait ses voisins. Je n'en croyais pas mes yeux. Il ne se passait jamais rien sur mon île, et quand il se passait quelque chose, il était rare que les journaux n'en parlent. Ça va ? C'est bien écrit ? Arrivée derrière moi, Madame Duras m'a fait sursauter, la tasse s'est renversée et le chocolat s'est répandu sur la table. La feuille est devenue toute marron, et quand Madame Duras a essayé de la soulever par un coin, elle s'est déchirée.
J'imagine que vous l'avez lu, a dit Madame Duras. Oui, un peu. Un peu seulement ? Est-ce si ennuyeux ? Oh non ! Je viens de l'île aux moutons, alors forcément, ça m'a intéressé. Forcément, oui, a dit Madame Duras. Dites-moi, cet article, qu'en avez-vous retenu ? J'ai l'impression de passer un examen. Heureusement, je me souvenais de tout ce que je venais de lire. Vous avez écrit qu'un coq, qui s'appelle Maurice, a été interdit de chanter, soi-disant parce qu'il dérangeait les voisins de sa ferme ? Soi-disant, oui, c'est cela. D'après vous, si j'ai bien compris, l'histoire du coq qui chante trop tôt cacherait une autre histoire. Peut-être un secret. Une histoire de voisinage, oui. Des voisins ne se font jamais la guerre sans raison.
Margot Duras propose à Jeanne de l'accompagner pour interroger le juge qui s'est occupé de cette affaire. Le jeune juge nous a dit bonjour avant de s'asseoir dans son fauteuil. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je m'intéresse à l'affaire du coq Maurice, » a dit Margot. « J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. » Le juge a pris un dossier sur la pile et l'a ouvert. On ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dedans, mais en suivant son regard, on a compris qu'il lisait quelque chose. Une affaire assez banale. Un couple de sympathiques retraités achète une maison de campagne et découvre que la ferme voisine a un poulailler. Tous les matins à l'aube, ils sont réveillés par le chant du coq, essayent de s'arranger avec le fermier qui commence par protester, prétend qu'il ne peut rien faire. La femme déprime et ne dort plus. Les voisins finissent par porter plainte et le dossier atterrit sur mon bureau. « Vous interdisez au coq de chanter, comme ça, tout de suite ?»« Non, bien sûr. J'ai essayé de trouver une solution, mais les parties restaient campées sur leur position. Ce n'est que plus tard que j'ai demandé au fermier de faire taire son coq. Et cela ne vous a pas paru, disons, étrange que ces gens portent plainte pour un coq qui a toujours été là, qui a toujours chanté et dont personne ne s'était jamais plaint ?»
Margot charge Jeanne de couvrir, pour elle, le procès qui doit se dérouler sur l'île aux moutons. Jeanne accepte de rédiger un article éloge chez son ancienne institutrice, Madame Badawit. Avant le procès, elle interroge différents témoins. D'abord, le fermier. « Je peux vous poser quelques questions ?» Le fermier a haussé les épaules. « Il est toujours là, Maurice ?» Quand j'ai dit « Maurice », les trois poules qui l'accompagnaient
ont levé la tête. Il est là, à bougonner le fermier ? Les poules se sont tournées vers moi, toutes les trois en même temps. Je ne le voulais pas. D'un même geste, comme si elles suivaient la balle d'un match de tennis, les trois poules se sont tournées vers le fermier, pour entendre sa réponse. Elle aura du mal. Elle ? Je me suis d'abord demandé de qui le fermier voulait parler. Puis j'ai compris que c'était à moi qu'il s'adressait. Pourquoi ? La nuit, Maurice n'a plus le droit de quitter sa cage. C'est le juge qui l'a dit. Et le jour, la cage est ouverte, il fait ce qu'il veut. Une poule a fait « coq ». Elle n'avait pas l'air d'accord. J'ai repris la parole. Pourtant, je ne le voulais pas. Il sort pas ? Vous croyez que je pourrais le rencontrer ? Pas le temps, a dit le fermier.
Puis Jeanne interroge les poules surnommées les Mathilde. J'ai demandé aux Mathilde de me parler du chant de Maurice. Le génie de Momo, c'est la mélodie tantôt légère, tantôt grave. Elle vous donne toujours la chair de poule. Et ses textes, au début, c'est vrai, ils se contentaient de copier les tubes américains qui plaisaient aux poulettes. Mais très tôt, il a écrit ses propres chansons, paroles et musique, avec les mêmes talents. Il peut chanter l'amour, l'amitié, la vie, la mort. Vous avez toujours l'impression que la chanson est écrite pour vous. Pas pour une autre poule, non. Juste pour vous. Les trois poules s'étaient tues, trop émues. J'ai changé de sujet. Vous voulez bien me présenter ? Qui ? Momo ? J'ai laissé mon vélo sur le bord du chemin à l'abri d'un talus. J'ai suivi les Mathilde jusqu'au poulailler. En chemin, elles m'ont mise en garde. Momo était très secret et son entourage faisait bagarre. Personne ne rencontrait Maurice sans l'accord de Coco et Rico. Le premier était son impresario. Le second, son garde du corps. Sinon, vous comprenez, il serait tout le temps dérangé, disaient les poules.
Puis, Jeanne rencontre le coq Maurice dans l'église. J'ai poussé la porte. Maurice. Dans l'obscurité, j'ai remonté l'allée entre les deux rangées de bancs. Maurice était bien là, assis immobile sous la maquette du Madagascar. La lumière d'un lampadaire, filtré par les vitraux, donnait à ses plumes noires des accents bleus et mauves. Le coq est resté un moment silencieux, puis il a dit, sans me regarder, « Vous avez un rêve ?» Il avait parlé d'une voix si lasse. Je n'étais pas certaine qu'il m'ait posé une question. Peut-être commençait-il une phrase ?« Vous ne répondez pas ?» J'ai réfléchi. « Je voudrais travailler dans un journal, » j'ai dit. Pourquoi ? Pour raconter. Moi aussi, a dit le coq. Toute ma vie, j'ai écrit des histoires que je chantais. Mais c'est fini. Ils ne veulent plus m'entendre. J'ai cherché mon carnet dans mes poches, avant de me souvenir que, parti trop vite, je l'avais laissé dans ma chambre, sur la table de chevet.
Évidemment, vous n'avez pas le bec pour écrire. « Prenez donc une de mes plumes, » a dit le coq en me tendant son aile. « Je ne voudrais pas vous faire de mal, vous plaisantez. J'en ai vu d'autres, et des pires. » J'ai tiré un coup sec et une grande plume s'est détachée. Je l'ai trempée dans l'encre du coquillage et j'ai pris une feuille sur le banc, que j'ai pliée en deux. Quand Maurice a compris que j'étais prêt, il a repris. « Je viens souvent ici la nuit. J'aime le silence des églises. » J'en ai besoin pour écrire, pour composer. Enfin, j'en avais besoin. Je viens encore par habitude, écrire des chansons qui ne seront jamais chantées, faute de public. Vous avez pensé à chanter moins fort ou moins tôt? Pourquoi pas un playback pendant que vous y êtes? Un coq doit chanter comme un coq. Vous auriez pu dire non et chanter quand même. Coco pense comme vous. Mais non, je ne peux pas prendre le risque de mettre toute la ferme en danger. Elle est ma seule famille et mon silence la protège.
a dit Maurice. Avant de marquer un silence, de toute façon, je sais bien ce qui va se passer à la basse-cour. Les animaux seront pour moi, les humains contre moi. Et ils parviendront bien à retourner une bête ou deux. Je serai condamné au silence éternel. Il n'y aura pas de rappel. La musique ne sera plus qu'un souvenir que je garderai au chaud dans mon cœur.
La veille de l'ouverture du procès, les gens ont commencé à arriver. Et sur l'île, l'ambiance a changé. Le ferry boat avait amené une petite foule de journalistes, de curieux, d'amis de bête et Maître Cabillaud, avocat de Maurice. Du jour au lendemain, il avait arrêté la politique pour devenir avocat. Et sa route avait croisé celle de Maurice. « Quand j'ai ouvert mon cabinet, a dit Maître Cabillaud, j'ai proposé mon aide à une association de défense des animaux. Gratuitement, cela va de soi. Je suis intervenu dans quelques affaires et me suis passionné pour les procès d'animaux. Figurez-vous qu'à une époque, il était courant que les bêtes soient jugées pour leurs crimes, comme des personnes. Au Moyen-Âge, plusieurs cochons ont été condamnés à mort après avoir attaqué des humains. Juste après la Révolution française, un perroquet a même été jugé par un tribunal révolutionnaire pour avoir crié « Vive le roi !» C'est en m'intéressant à l'histoire de ces procès que j'ai découvert que la loi, qui avait été créée, la basse-cour de justice, n'avait jamais été abrogée. Elle était en sommeil en quelque sorte, mais toujours en vigueur. Je venais de faire cette découverte quand un jour, j'ai vu entrer dans mon cabinet un membre de l'association de protection des animaux, accompagné d'un jeune coq.
Maître Cabillaud est persuadé de l'innocence du coq. Voici ce qu'il pense de la Parisienne qui porte plainte. Depuis le début, cette femme nous ment. Je ne sais pas encore ce que cachent ces mensonges, mais je compte sur le procès pour faire éclater la vérité. Je suis venu pour cela. Je vais te dire ce qui cloche dans sa déposition, a dit Maître Cabillaud. D'abord, j'ai découvert qu'avant de devenir propriétaire, son mari et elle avaient loué la maison pour les vacances. Il savait donc très bien où il mettait les pieds. Mais ce n'est pas tout. La voisine prétend qu'à cause du bruit, elle n'ose plus inviter ses petits-enfants. C'est écrit noir sur blanc dans le dossier. Pourtant, j'ai fait des recherches. Cette femme n'a jamais eu d'enfants. Comment pourrait-elle avoir des petits-enfants? Mentir à la justice, c'est grave.
Après avoir écouté les différents témoins, les plaidoiries des avocats ont lieu à la fin du procès. Maître des Hautes Fourches plaide contre le coq Maurice. Maître des Hautes Fourches a plaidé le premier. Pour lui, c'était évident. Le juge qui avait condamné le coq au silence avait pris la seule décision possible. Il demandait au juré de confirmer une fois pour toutes l'interdiction de chanter. Il proposait aussi que Maurice soit condamné à payer un œuf de dommages-intérêts à ses clients, une manière symbolique de reconnaître sa faute. « Ce serait quand même la moindre des choses », s'écriait la voisine qui était assise avec son époux à la table des hautes fourches. Pour le dernier jour du procès, les voisins s'étaient mis sur leur 31, comme s'ils avaient déjà gagné, comme s'ils avaient déjà quelque chose à fêter. À la table voisine, Maître Cabillaud écoutait son collègue d'une voix distraite. Avec son crayon gomme et ses notes posées sur les genoux, il faisait plus penser à un joueur de mots croisés qu'à un avocat sur le point de plaider. Lorsque son tour est venu, il s'est levé et s'est approché du box de Maurice, qui lui a serré l'index avec ses longs doigts fins, comme pour lui souhaiter bon courage. Lentement, Maître Cabillaud s'est avancé vers la barre.
Maître Cabillaud a sorti de sa sacoche la feuille que m'avait donnée Maurice à l'église, la nuit où j'avais oublié mon carnet. Dans l'obscurité, je n'avais pas tout de suite remarqué qu'il contenait un brouillon de chansons. Ce n'est que bien plus tard, en copiant mes notes, que je l'avais découvert. Ceci est une chanson écrite par mon client Momo. Une chanson que s'il la chantait publiquement, ferait l'effet d'une bombe dans les poulaillers de l'île. D'ailleurs, le morceau s'appelle « Coco Siao ». A dit Maître Cabillaud en enfilant ses lunettes pour lire les mots écrits au dos du papier. En voici le refrain. Pondu, vendu, voici notre destin. Haché, broyé, il est temps de dire fin. Nous n'irons plus à l'abattoir. Pour nous plumer, revenez plus tard. On veut du verre, pas une vie en enfer. Plus loin dans la chanson, il est question de poulets prisonnières d'un poulailler géant, de 100 000 pauvres bêtes torturées dans une usine sinistre, enfermées toute leur vie dans les cages minuscules avant d'être lâchement mises à mort. C'est cet enfer que Maurice s'apprêtait à dénoncer. Et ceux que cela dérangeait ont voulu le faire taire.
Maître Cabillaud a découvert que Hautefourche est le propriétaire du poulailler géant que des ouvriers étaient en train de construire en secret. Tout s'explique. Alors, la voisine a bien été obligée d'avouer. Oui, elle avait menti. Elle avait cherché à faire taire Maurice. Il fallait la comprendre, disait-elle. Elle n'était qu'un pion entre les mains des Hautefourche. Toute sa vie, elle avait travaillé comme comptable au bureau parisien de la DHF, compagnie dirigée par le cousin Germain de son avocat. Quand ils avaient entendu parler d'une chanson qui risquait de déclencher une révolte dans les fermes de la région, où Maurice était si populaire, les Hautefourche lui avaient demandé de porter plainte contre le coq. En échange, elle et son mari avaient reçu de l'argent pour payer la maison. Au début, le fermier avait protesté, mais Ouest-Euf, l'une des sociétés de DHF, avait acheté son silence et celui de son coq en prenant ses œufs au double de leur prix.
Les journalistes se sont massés autour de Maître Cabillaud. J'ai réussi à me faire une place et je l'ai entendu annoncer que l'association de protection des animaux lui avait officiellement demandé de porter plainte contre les Hautefourche et leur projet de poulailler géant. Un autre procès aura bientôt lieu. Le verdict est tombé. À l'unanimité, le jury a acquitté Maurice. Le coq était libre de chanter. C'est pendant le trajet du port à la ferme que Maurice aurait demandé à Coco de trouver un moyen de remercier tous les amis qui l'avaient soutenu. Pourquoi pas un concert gratuit, aurait proposé l'impresario. Le plus grand concert coq jamais organisé. Quant à Jeanne, il ne lui restait plus qu'à rédiger son article pour Ouest Matin.